Radio Star
Wars. Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène ce soir du côté obscur du plein emploi au Danemark, pays que l'on adore citer en exemple. Vous verrez que la réalité est bien moins rose. Si Dark Vador était blond, on l'appellerait peut-être Trump. Trump saison 2 avec Grégory Phillips. C'est à 18h45 et la dernière sortie sexiste du président américain. Vous entendrez aussi quelques phrases absolument hallucinantes du candidat déchu d'Alabama soutenu par le président Eva Bettan et les sorties ciné du jour. Un film italien, Zéro sabre laser à l'horizon. 18h55, l'édito du journal Le Monde. C'est Sylvie Kaufmann ce soir en voilà un autre de Dark Vador qui nous parlera de Poutine en Syrie. Mais avant, vous qui êtes allergique au Star Wars qui sort aujourd'hui épisode 8, restez. Si vous êtes fan, évidemment, restez aussi. Ce que nous allons chercher, c'est pas la saga, sa vie ou son œuvre, c'est ce que cette saga nous raconte de l'histoire américaine et vous allez voir, c'est fascinant.
Fabienne Saint-Pès, un jour dans le monde.
Pas encore si le film sera efficace, mais la bande-annonce de Star Wars 8, faut reconnaître, là, pour le coup, est très très efficace. Alors, on va le dire tout net, moi, je n'ai absolument pas vu ce film qui sort aujourd'hui. Vous non plus, Thomas Negaroff.
Non plus.
Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
En revanche, vous ressortez, charmant Colin, Star Wars, le côté obscur de l'Amérique. Et ce qui nous intéresse, c'est ce que nous raconte ce film derrière les images, ce que nous raconte en creux l'histoire récente de cette Amérique à travers ces films-là, qui va, en gros, de la guerre du Vietnam jusqu'à 2003, 2004, 2005, l'Amérique de Bush. Et on verra d'ailleurs si elle nous raconte une autre histoire aussi avec les épisodes à suivre. Donc on va de Nixon à Bush. Ce qui est intéressant d'abord, c'est le côté très binaire en fait, parce que finalement l'Amérique ne change pas. Et ça, c'est quelque chose qui traverse les années.
Oui.
Le côté obscur de la force contre la lumière des Jedi, le bien, le mal, l'axe du mal, l'axe du bien, l'Amérique parfaite contre les méchants. Ça, pour le coup, c'est même toujours vrai aujourd'hui. C'est quelque chose qui traverse l'histoire américaine et donc qui traverse ces films.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est vraiment pour moi l'entrée dans ce livre et dans cette idée de que Star Wars en fait raconte l'histoire de l'Amérique. Si vous voulez, on a parfois l'impression que Star Wars dépeint le bien et le mal étant les nazis, les Staline. Et il y a de l'imagerie. Et George Lucas a pris, effectivement, s'est appuyé sur des images de Leni Riefenstahl, par exemple, ou sur certains défilés militaires de l'URSS pour construire le mal. Sauf qu'en réalité, cette histoire ne parle que de l'Amérique. Et ça, j'en ai la certitude, et c'est pas une hypothèse, j'en ai la certitude, lorsque j'ai lu dans les archives que, alors qu'on demandait à George Lucas, mais les scénaristes qui travaillaient avec lui, mais qui est Palpatine, qui est Dark Vador, et en l'occurrence Palpatine plutôt, qui est l'empereur en fait, l'expression même du mal, Dark Vador étant plutôt la main du mal, le bras armé du mal, on lui demande, mais c'est Hitler, c'est Staline, et George Lucas répond, non, c'est Richard Nixon. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, bien sûr, il ne s'agit que d'une histoire de l'Amérique. Quand vous parlez de la binarité, c'est effectivement à un moment donné, en 77, il commence à écrire en pleine guerre du Vietnam, George Lucas, dans un contexte contre-culturel de Californie, il raconte en réalité une Amérique contre elle-même, une Amérique qui se retourne contre ses propres valeurs, qui lutte en permanence contre une tentation impérialiste. Et c'est vraiment ça au cœur de l'œuvre, des origines jusqu'à aujourd'hui, puisque finalement, on a la première trilogie qui raconte le constat et ensuite comment on arrive à ça.
Parce que finalement, si on regarde tel que le décrit Lucas, la République, au démarrage, la République parfaite et qui fonctionne bien, c'est une espèce d'image mythifiée de l'Amérique. Ça ressemble à Washington, ça ressemble à ce que les pères fondateurs voulaient de l'Amérique au départ, en fait.
Oui, en véhiculant d'ailleurs un autre mythe au passage, qui est que l'Amérique est une construction parfaite. Thomas Paine disait en 1776, nous pouvons recommencer le monde à nouveau, donc il y a l'idée d'une page blanche, et que l'Amérique est une nation idéale, bénie des dieux, élue même des dieux, et que si elle ne dévie pas de cette voie-là, elle va conduire le monde vers le bien. Et il y a l'idée qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez le personnage, parce que ce qui est intéressant dans Star Wars, c'est que on duplique l'univers à l'individu. C'est en ça que ça devient universel. L'individu, c'est Anakin, petit garçon, qui est doté de tous les pouvoirs, qui est malicieux, intelligent, etc., et qui, par le truchement de la peur, va se transformer dans le mal absolu. Comme si on avait là la métaphore de la nation américaine.
Écoutez ça.
Fear is the path to the dark side.
fear leads to anger.
L'explication de ce que vous venez de nous dire, c'est ce petit personnage que tout le monde connaît même quand on n'a pas vu les séries, le petit Yoda. La peur est ce qui amène au côté noir.
Oui.
Et c'est ça aussi, en fait, que ça nous raconte. La peur que distillait Nixon, mais la peur aussi derrière qu'a distillé George Bush en 2003, au moment d'entrée à la guerre en Irak. La peur que distille Trump aussi quand il dit autour de nous, vous avez raison d'avoir peur, mais regardez, moi je vais vous sauver.
Oui, oui, c'est la peur comme rhétorique du pouvoir, la peur qui permet de capter les émotions populaires et de les transformer parfois en rejet des propres valeurs de liberté qui ont fondé la nation. Je veux dire, mais ça, il n'y a pas besoin d'aller qu'aux États-Unis. Je veux dire, la rhétorique de la peur, on la retrouve aussi chez nous. Et on l'a vu notamment après le 11 septembre 2001, qui correspond en fait à la deuxième trilogie, exactement, même un peu anticipée, comme les œuvres d'art le font parfois, elle anticipe le réel. Et on a effectivement, dans la peur, un Sénat qui va applaudir à la fin de la démocratie. Et donc, ça raconte aussi comment les Américains se sont assis sur leur premier amendement après le 11 septembre, comment le pouvoir politique s'est servi de cela pour faire avancer un programme qui n'est pas celui, en tout cas, défendu par les pères fondateurs.
Alors, revenons juste un tout petit peu en arrière. Vous l'avez cité, pourquoi Palpatine, qui est donc le sénateur qui, par une fourberie à la bouche, effectivement, va finir par le truchement de la démocratie, devenir un despote et un dictateur. Pourquoi c'est Nixon, cet homme-là? Parce qu'au fond, Nixon a été destitué le plus légalement du monde. Alors, il a démissionné, mais au fond, la démocratie a marché avec Nixon. Donc, pourquoi Palpatine, c'est Nixon à ce moment-là?
Alors, Palpatine n'est pas que Nixon. Palpatine, il est l'expression même du renversement démocratique par la peur. Alors, d'ailleurs, c'est étonnant que George Lucas choisisse Nixon en incarnation de Palpatine. Ça traduit aussi une génération de jeunes Américains qui ne voulaient pas faire les guerres au Vietnam, qui ont vu le Watergate, qui ont vu les valeurs américaines dévoyées. Et donc, c'est le mal. Mais au-delà de ça, il y a vraiment l'idée que la peur bien usée, bien utilisée, dans un contexte démocratique, peut conduire à un retournement démocratique. Et effectivement, ce qui est intéressant, peut-être, c'est davantage l'époque Bush que l'époque Nixon, et même que l'époque Trump. Parce que j'ai regardé un peu pour mettre à jour le livre, et à quel point Trump est peut-être le président qui, même plus que Bush, a utilisé à ce point la rhétorique de la peur, la rhétorique du déclin, pour expliquer qu'il est le seul, finalement, à pouvoir résoudre cette problématique du déclin, de l'effondrement, du déclassement, etc. Et donc, il y a effectivement dans Star Wars cette idée très très puissante que la peur est la principale émotion qui peut faire bouger les masses. D'ailleurs, c'est même ce que disait Nixon lui-même. Nixon disait, plus que l'amour, je suis désolé de vous le dire, c'est la peur qui peut faire bouger les masses.
Et alors, en même temps, l'Amérique, pour revenir encore en arrière, cette Amérique de Nixon que vous décrivez, on est dans une espèce d'Amérique post-beatnik, qui est en train de perdre. On n'est plus dans l'Amérique des fleurs et de San Francisco. Les gens qui reviennent du Vietnam, effectivement, sont dénigrés par la société américaine. On n'est pas du tout encore dans Rambo, on est dans Voyage au bout de l'enfer, en fait, si on doit faire une comparaison. Mais Star Wars a quelque chose de très différent. Les héros sont magnifiés. On a l'impression qu'on sort de ce mortifère, on sort de cette génération perdue avec cette première trilogie de ce moment-là, peut-être pour sortir de cette période-là, non ?
Oui, et c'est le grand malentendu. C'est-à-dire qu'on a souvent lu Star Wars comme étant une œuvre contre-culturelle, dans le milieu un peu hippie de la Californie, du LSD, etc. Cette ambiance contre-culturelle d'une œuvre qui briserait tous les codes, etc. Alors que moi, je prétends qu'au contraire, Star Wars a remis l'Amérique sur le droit chemin d'une société patriarcale et a clos une période enchantée pour certains du cinéma américain, ce que Peter Biskind appelle le nouvel Hollywood, où on peut être en empathie avec des contre-héros, même avec les méchants. Il cite par exemple Bonnie and Clyde. Et là, en fait, ce qu'arrive à faire Lucas, c'est au contraire, alors qu'on a l'impression que c'est, et c'est le cas aussi, une œuvre qui critique le dévoiement de la démocratie américaine, qui critique l'impérialisme extrêmement, de manière très forte, en même temps, il y a un discours très patriarcal, puisque quand on regarde bien la saga, au bout de 7-8 heures des premiers épisodes, des épisodes 4, 5, 6, à la fin, vous avez cette résolution de toute l'intrigue. Et la résolution de l'intrigue, c'est quoi? Vous m'arrêtez, Fabienne?
Ben c'est ça.
I am your father.
Je suis ton père. Et à la fin, on cherche le père.
On cherche le père, et l'ordre est rétabli dans le cosmos quand le père est le père, et le fils est le fils. Et donc, la révolution réganienne qui arrivera dans la foulée, elle se nourrit de cela. Et ce qui est fascinant, c'est que Reagan va se servir de l'ordre moral impliqué par la philosophie de cette saga pour asseoir son pouvoir. Et George Lucas va s'en rendre compte à son corps défendant, parce que lorsque Reagan lance son grand programme spatial de défense du territoire, que les médias vont appeler la guerre des étoiles et que l'administration Reagan va utiliser aussi comme la guerre des étoiles, il ne s'agit pas de dire c'est l'Amérique contre elle-même, mais l'Amérique contre les autres, contre les méchants, contre les soviétiques. Donc il retourne l'idée même de Lucas, mais il utilise le fond culturel d'une société patriarcale qui est le garant de l'ordre. Lucas est fou furieux, il porte plainte contre Ronald Reagan et il perd. Et il perd, et c'est tellement symbolique, il perd et c'est normal qu'il perde, puisqu'il a en réalité offert un territoire, un espace politique idéologique à l'arrivée de la révolution réaganienne. C'est quand même très paradoxal.
Alors, autre espace politique, vous l'avez un petit peu évoqué, on parlait tout à l'heure de ce basculement de l'Amérique et qui s'autorise elle-même à être ce qu'elle n'est pas. C'est la reine Padmé qui parle. On est, je ne vais pas dire de bêtises, dans l'épisode 4, je crois. C'est la reine Padmé, écoutez ça. This is how liberty dies. With thunderous applause. Non, c'est pas de 4, on me dit c'est l'épisode 3. Oui, ça suffit, il y a Jimmy derrière qui me fait un signe, mais non, c'est dans l'épisode 3. Ce que dit la reine Padmé à ce moment-là, on est au Sénat, l'empereur, le sénateur vient de dire « Désormais, l'Empire est là », et elle a cette phrase formidable qu'on pourrait mettre dans la bouche de George Bush, mais texto, « Regardez comme la démocratie s'effondre sous les applaudissements ». C'est à ce moment-là que, en 2003, le Sénat vote le Patriot Act aux États-Unis et dit « Très bien, les lois liberticides, c'est d'accord, puisque c'est pour notre sécurité ».
Qui est un renoncement des libertés, et là on a la complexité même de l'œuvre, qui d'un côté est une œuvre très politique, très critique de l'évolution de la démocratie américaine, mais qui pour autant a un fondement culturel et identitaire extrêmement conservateur. Je parlais de société patriarcale, c'est vraiment le moteur même. Ceux qui connaissent bien la saga doivent se souvenir que la sœur, la princesse Leia, la sœur de Luke, qui pourtant est autant Jedi que son frère, a autant le sang de son
ne l'est pas,
puisque Darth Vader se retrouve en face d'elle et ne la sent pas particulièrement, il ne sent que son fils. C'est une histoire d'homme et c'est intéressant dans la nouvelle saga.
Et j'allais vous y emmener parce que le démarrage est très machiste, finalement. Les femmes portent les enfants, elles sont courageuses, les femmes, mais
elles font avancer l'histoire.
Exactement, elles font avancer l'histoire, mais elles n'ont pas la force alors qu'elles devraient, il se passe rien de tout ça. Il y a quelque chose de très machiste, mais est-ce que ça veut dire, puisque dans la saga à venir, l'héroïne est une héroïne, est-ce que ça veut dire qu'on change réellement de paradigme ou est-ce que c'est juste la mode en fait et on a perdu l'espèce de fil conducteur d'histoire américaine et de société américaine qu'on avait dans les premiers épisodes?
Je pense qu'on l'a un peu perdu parce que ne serait-ce que c'est plus le même
c'est
le même,
Disney maintenant, c'est plus pareil.
Et c'est plus Lucas qui écrit l'histoire, donc on est moins dans la tête d'un créateur, donc forcément on perd le sens. Après, est-ce que c'est pur du business que de mettre une femme pour que des petites filles achètent des jouets? Peut-être. En même temps, j'aimerais juste pour faire finir une citation de George Lucas en 1977, pour arrêter de penser que Lucas c'était l'art et que Disney c'est l'argent. Écoutez ce que disait George Lucas en 1977, avant même le premier film. J'ai la possibilité de faire 5 fois plus de fric que Francis Ford Coppola, et seulement avec les jouets, et sans avoir à faire le parrain pour cela. Je vais faire le film le plus conventionnel qui soit, un Disney. Les Disney rapportent toujours 16 millions de dollars, mon film va donc rapporter 16 millions de dollars, il en coûtera 10, mais on se fera une bonne marge sur les produits dérivés. Désolé pour les passionnés de George Lucas.
Voilà, un poète, mais ajoute Eva Béton qui vient de s'installer, Eva qui n'a jamais vu Star Wars, mais voyez, en écoutant Thomas, je suis sûre que vous regrettez un peu. Merci beaucoup.
J'espère.
Ça s'appelle Star Wars, le côté obscur de l'Amérique. C'est signé par vous, Thomas Negaroff, chez Armand Collin. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde. Après Florence Paracuelos, nous irons au Danemark, le pays qu'on adore citer en exemple pour son plein emploi. Et pourtant, chômeur au Danemark, croyez-moi, c'est pas une promenade de santé. À suivre aussi Trump saison 2, rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Grégory Philips, vous qui suivez le président à la trace, quelques phrases complètement hallucinantes ce soir.
Oui, on va parler des polémiques de la semaine, on va parler un peu de l'élection en Alabama, et puis on va se demander combien de soda boit Trump chaque jour.
Eh bien beaucoup, vraisemblablement. Eva Béton, vous vouliez faire un rectificatif, je vous en prie.
J'ai déjà vu des Star Wars, et c'est encore pire. Ah. Je m'y suis endormie.
Bon, mais du coup, vous nous parlerez tout à fait autre chose tout à l'heure. Voilà, un film italien, ça s'appelle L'Introsa.
Oui, et un film de mafia sans un coup de feu, c'est pas mal quand même.
Oui, c'est bien. Allez, à tout de suite. On n'a pas fini notre tour du monde, on commence à peine même. Voici Wu-Tang Clan, People Say, sur France Inter. If one of them men is so ferocious, don't worry about it. The disciples are now well aware of the fact that my kung fu is unbeatable. Brother, we trap! Shaolin here. You must take command. Don't resist. You are a traitor. Avenge Master Death. I rely on you. That's when my heart turned cold. I'm a prodigal.
of the block. We used to cook the product in the pot, add soda, turn the product in the rock. It's in my DNA, you see, it started with my pops. In his heyday, he probably put your father in the box. In my heyday, I probably put the product in my sock. Ain't no vacate, the props become a problem when it's hot. Mayday, mayday, but no charge. I'm nutty with the bars, that's a payday. So, bruh, this ain't even a bar, this is AA. Back up in the trunk with the AK. Each line pack a fabulous punch, no diss to Ray J. Nah, see, I don't dab and I don't nay-nay. Got bottles coming out, warriors come out and play, ay. Just know I'm grade A, get a slice of bread. Okay, some hoods love
that could walk off with minor scars. Firing squad, defying the odds. And the flow solitary, just me behind the bars.
Sparks up the bulletproof, game face intensity, applied ingenuity, tech criminology, sharp mathematically, certified, recognized by every eye worldwide. Back to the streets of the do or die hustler. I understand politics, consistent, never quit, superstar, right hits. Come have a listen, y'all. Getting money, flipping it, scripting it, record it. Fans that applaud it, ship $100 million, they bought and took a snort of it. Quotes like heroin, coke mixed with dope, have an overdose, cardiac, a law spin the beat back. Watch the magnetic track them, club pack them. They stiff cause the wisdom is swift when I'm attacking.
Out of everybody getting these deals, you got all these black motherfuckers getting deals. You know what I'm saying? They're getting deals, and everybody got a deal, and everybody happy. And Wu-Tang, we the best.
Wu-Tang Clan, People Say, sur France Inter.
Power Hit Radio.
Magic FM.
T'es un là-dessus, là.
Desservi, prise faux.
60 minutes.
Reprends-le, c'est la honte, ma différence par Aquelos. Comment je dois le prononcer,
pardon? Wu-Tang Clan.
Wu-Tang Clan, autant pour moi, allez. Florence Paracuelos sous les radars avec l'info internationale cachée dans les recoins de la planète, c'est pas grave. On commence avec une séquence émotion. C'était avant-hier dans le Late Night Show d'ABC, ça se passe aux États-Unis.
Séquence très politique aussi que ce monologue de l'animateur Jimmy Kimmel, absent la semaine dernière à l'antenne. Il était auprès de son fils de 8 mois qui s'est fait opérer du cœur. Il va bien, il est dans les bras de son père en ouverture de l'émission. Billy a les yeux grands ouverts. Kimmel, en revanche, n'emmène pas large.
Daddy cries on TV, but
papa
Billy
pleure
doesn't.
À la télé, mais Billy non, c'est incroyable. Ça n'est pas, Fabienne, pour faire rire ou pour faire pleurer que Kimmel montre son bébé à la télé, c'est pour prendre la défense du programme National Chip, une assurance santé dont bénéficient 9 millions d'enfants aux États-Unis. Leurs parents ont des revenus trop élevés pour bénéficier du Medicaid, qui aide les plus pauvres, mais des revenus trop faibles pour se payer une couverture santé qui coûte, vous le savez, très cher aux États-Unis. Le problème, c'est que le Congrès républicain n'a pas renouvelé le financement de ce programme qui existe depuis 20 ans. Le programme CHIP est sacrifié pendant qu'il travaille à leur réforme fiscale. Ce qui veut dire que des parents d'enfants qui ont des cancers, du diabète, des problèmes de cœur sont sur le point de recevoir une lettre pour leur annoncer qu'ils vont perdre leur couverture santé le mois prochain. Joyeux Noël, n'est-ce pas? Alors que c'est vraiment une question de vie ou de mort pour les enfants d'Amérique. Alors que ça a toujours été un programme transpartisan. Mais cette année, ils coupent les crédits pendant qu'ils travaillent à réduire les impôts de leurs milliardaires de donateurs. Kimmel vise très clairement les Républicains et la réforme fiscale de Trump. Lui qui n'a pas de problème d'assurance santé. Il appelle ses téléspectateurs à contacter leurs élus pour leur demander d'agir au plus vite.
Florence, à Strasbourg, aujourd'hui, le prix Sakharov a été remis à l'opposition vénézuélienne.
C'est un prix pour la liberté de l'esprit que décerne chaque année le Parlement européen. L'opposition vénézuélienne est pourtant divisée, dispersée façon puzzle entre ceux qui veulent dialoguer avec Maduro et ceux qui ne veulent pas. Ils ont perdu les élections municipales ce dimanche après avoir boycotté le scrutin et les voilà exclus désormais de la présidentielle de l'an prochain que le successeur de Chavez compte bien remporter malgré l'état catastrophique de son pays. On en a déjà beaucoup parlé. Cela dit, ce prix Sakharov a au moins le mérite de souligner la répression subie par les opposants à Maduro. À Strasbourg aujourd'hui, Antonio Ledezma est l'un de ceux qui est venu le recevoir. C'est l'ancien maire de Caracas, arrêté puis assigné à résidence pendant des années avant de s'enfuir cet automne pour Madrid. Il rappelle les manifestations et les violences de ces derniers mois.
Entre
avril et juin cette année, 130 jeunes vénézuéliens sont morts. La plupart n'avaient pas 20 ans. Ils se battaient pour la démocratie qu'ils n'ont jamais connue. Ce prix, c'est une reconnaissance au peuple vénézuélien courageux.
et à tous ces exilés, comme moi, dispersés à travers le monde, pour échapper aux persécutions politiques subies par tous les Vénézuéliens. Aux côtés de Ledesma, aujourd'hui à Strasbourg, une femme, Patricia Gutiérrez. Son mari est en prison, c'était le maire de San Cristobal dans le nord du pays. Il a été arrêté en 2014, il est toujours incarcéré depuis, c'est elle qui a repris le flambeau.
Allez Florence, en plus léger avis aux James Bond australiens, à ceux qui voudraient le devenir en tout cas, les services secrets recrutent.
L'Australian Secret Intelligence Service recherche de nouveaux agents et pour les trouver, elle lance un examen interactif en ligne accessible à tous, même si seuls les Australiens ont une chance d'être recrutés. Alors, j'ai essayé, c'est pas facile. D'accord. Vous êtes, pour commencer, dans un ascenseur et vous devez trouver un chiffre qui manque parmi 5 autres, selon un algorithme qui m'a échappé. Les portes de l'ascenseur se sont tout de même ouvertes sans que je sache si j'ai donné la bonne réponse. Et une femme m'attendait
avec
dans des locaux de bureau, tout ce qui est plus classique.
Hi, you've made it.
Bonjour, vous l'avez fait. Bienvenue au plus intéressant des entretiens d'embauche. Ma mission est de vous tester pour le compte des services secrets australiens. L'entretien du jour concerne un poste d'officier de renseignement. C'est une carrière passionnante, mais difficile, qui requiert des conséquences, des compétences bien spécifiques. Donc c'est parti. Pour une série de tests, vous êtes dans un aéroport, vous parlez à une hôtesse, mais est-ce que vous avez vu quel vol est annulé sur le tableau d'affichage loin derrière? On vous montre des photos, puis on vous demande de reconnaître des gens dans la foule avec leur nom que vous avez lu deux minutes avant. Mm-hmm. On vous fait écouter trois conversations simultanées, ça c'est extrêmement difficile avant de vous poser des questions précises sur les trois conversations.
Une après-midi extrêmement bien remplie, Florence.
Ce que nous cherchons, ce sont des gens avec un large éventail de milieux d'origine, des personnes qui sont manifestement intelligentes, observatrices, brillantes, prêtes à être déployées à l'étranger, explique la ministre des Affaires étrangères australienne. Moi j'ai lamentablement échoué, hein. Le poste n'est probablement pas fait pour vous, m'a-t-on dit gentiment à la fin de l'examen. Je vous invite à essayer, je pense que si vous tapez sur Google test service secret australien, vous allez pouvoir y arriver.
En même temps, vous nous racontez que vous avez échoué, mais enfin la première qualité d'un bon agent, c'est de ne pas dire qu'il est agent, Florence.
Oui, bon, ben,
on l'a vu, votre petit jeu.
À ceux qui réussiront, ils ne le diront pas.
Ah, exactement.
Voilà. Enfin, moi, je peux le dire.
Ce sera la conclusion. Ouais. Allez, merci, à demain.
Konnichiwa.
France Inter.
À Konkutolo.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et le reportage d'un jour dans le monde nous emmène au Danemark ce soir. Nous sommes au Danemark, mais regardez comment ça se passe bien dans les pays du Nord. Regardez comme ça se passe bien au Danemark. Vous l'avez entendu, cette phrase, plusieurs fois sans doute dans la bouche de nos politiques. Le contrôle des chômeurs est très bien maîtrisé. Tout cela résonne d'autant que nous sommes en train de discuter nous-mêmes en ce moment d'assurance chômage. Ça a d'ailleurs commencé aujourd'hui. Bonsoir Célia Kirem.
Bonsoir Fabienne.
Et le Danemark, c'est ce chiffre, 4% de chômage. Pour nous, évidemment, ça fait rêver. Mais vous avez été voir, Célia, de l'autre côté de la force. Et tout de suite, c'est beaucoup moins rose. Voici comment ça se passe. Chômeur au Danemark, c'est ce qu'on voit ensemble.
À quelques kilomètres du centre cossu de Copenhague, loin des beaux immeubles, des canaux et des riches entreprises, des chômeurs en difficulté ont choisi de se retrouver dans un centre de congrès peu clinquant d'une banlieue modeste à l'abri des regards de la société. C'est la face cachée du plein emploi. Ils se serrent les coudes, organisent eux-mêmes des conférences avec des coachs qui les aident à retrouver confiance. Car être chômeur au Danemark ressemble à un parcours du combattant. Il faut envoyer 2 lettres de candidature par semaine, être toujours disponible et même éviter de partir en vacances. C'est interdit, sans autorisation. Un cadre trop strict. Pour pire, 57 ans, cet ancien ingénieur a travaillé toute sa vie.
Il y a de jeunes managers qui ne veulent pas embaucher des cadres plus vieux. Et malgré tout, vous devez être actif, sortir tous les jours pour montrer que vous cherchez un emploi. Et je n'ai pas le droit de partir en congé parce qu'il faut être disponible pour le marché du travail. Donc ce ne sont pas juste des vacances.
Et en effet, pour l'exemple, quelques rares chômeurs ont été arrêtés à l'aéroport de Copenhague. Ils quittaient leur ville sans prévenir. Les demandeurs d'emploi sont surveillés de très près. Pascal est une Française qui vit au Danemark. Elle est au chômage depuis quelques mois.
Le problème, c'est qu'on est vraiment sous pression, disons. Bah, on sent comme des gamins. Comme je suis obligée d'envoyer 2 lettres de candidature ou 3 lettres, bon, j'envoie en me disant, j'espère qu'ils ne vont pas me répondre. Ce serait mieux s'ils me disaient non. Oui. Je pense qu'il faut être assez fort assez solide. Je connais plein de gens qui, au bout de quelques mois, vraiment ont perdu le moral.
Et c'est justement pour eux que Milena Gréco-Vilche a créé une association de chômeurs, Power Jobs Earn. Cette ancienne cadre, elle-même licenciée, constate que ce système défavorise les plus faibles.
Si jamais par malchance on dépasse cette période de 2 ans, on perd son droit à l'assurance chômage. Et pour la première fois au Danemark, en tout cas ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, on voit un certain nombre de nouveaux pauvres qui fouillent dans les poubelles pour se nourrir.
Mais la priorité au Danemark, c'est le retour à l'emploi coûte que coûte. Au centre de Copenhague, Lise Bayer est la responsable d'un job center, une agence pour l'emploi spacieuse, calme, moderne. Les agents reçoivent les chômeurs dans de petits box. Chaque minute est comptée. Les demandeurs d'emploi doivent prouver que leur méthode de recherche de travail est efficace. Ils sont mis en contact avec des entreprises, même si les offres ne leur correspondent pas. Mais qu'importe, pour elles, ce système est positif.
Quand les chômeurs ont passé 16 mois sans emploi, ils sont plus enclins à accepter n'importe quel travail qu'au début de leur période de chômage. C'est bien, mais il faut être disponible. Vous ne pouvez pas chercher un travail comme un astronaute, de loin. Vous devez coller à la réalité du marché du travail. Nous avons un système pour vérifier les recherches des chômeurs. Si c'est vert, ça veut dire qu'ils cherchent dans une zone où il y a des offres d'emploi. Et si c'est rouge, c'est qu'il n'y a rien. Nous nous assurons que les gens cherchent bien dans les zones vertes. C'est très efficace.
Et en parallèle, le chômeur peut bénéficier d'une formation de 6 semaines pour un métier en tension. En général, les demandeurs d'emploi retrouvent un travail au bout de quelques mois, mais parfois loin de chez eux. Ils n'ont pas le droit d'être difficiles. Alors certaines critiques commencent à émerger. Dans cette société pourtant acquise aux vertus de la flexi-sécurité, au siège de Hello, par exemple, un syndicat de travailleurs, Mads Busk, estime que les allocations chômage ne sont plus assez élevées.
Oui, ils devraient peut-être assouplir un peu les règles, mais pour nous, ce n'est pas le sujet principal. Le problème, c'est plutôt le niveau des allocations chômage qui baisse d'année en année, on le constate. Les chômeurs reçoivent de moins en moins d'argent. En principe, vous devez percevoir 90% de votre ancien revenu, mais ce n'est pas la réalité. Désormais, les travailleurs reçoivent 54% de leur salaire précédent. Ce n'est pas assez.
Et en effet, ces allocations sont plafonnées à 2400 euros par mois environ, peu importe le salaire précédent. Côté patronat, la principale inquiétude, c'est le manque de main-d'œuvre. Les chefs d'entreprise voudraient pouvoir faire appel à des travailleurs étrangers, hors Union européenne. Mais dans ce pays où l'extrême droite recueille 20% des voix, ça ne passe pas. Ils demandent également plus de formation. À la sortie du siège du syndicat Hello, la présidente confie, si Emmanuel Macron s'inspire du Danemark, il ne faut surtout pas qu'il sacrifie la sécurité au bénéfice de la flexibilité. Bref, ce modèle qui s'applique aujourd'hui à un pays assez fermé de moins de 6 millions d'habitants ne semble pas si facile à transposer.
La face cachée du plein emploi au Danemark, Célia Kiré pour Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Es.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le mercredi, Trump saison 2 avec Grégory Phillips dans les pas du président américain. Grégory, on va revenir un petit peu sur cette fameuse élection en Alabama. Vous en avez déjà parlé sur France Inter, ce sera dans une minute. Juste avant, la polémique de la semaine, j'allais dire la sortie misogyne de la semaine plutôt.
Oui, et comme souvent, cette polémique a débuté hier par un tweet matinal du 45e président des États-Unis qui s'en prend à la sénatrice démocrate de New York, Kirsten Gillibrand. Alors, que dit le président dans ce message? Eh bien, que cet élu démocrate est un poids-plume de la politique, pourquoi pas, et que c'est quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, venait dans son bureau en le suppliant de financer sa campagne et que pour ça, elle était, je cite, « prête à tout ». Alors, tout le monde ou presque ici a vu dans ces quelques mots de Trump des propos extrêmement sexistes et misogynes, et la sénatrice a immédiatement réagi de manière extrêmement vigoureuse.
Je vois ça comme de la diffamation sexiste. Et c'est vraiment ça. C'est la stratégie du président de balancer des noms comme ça. Mais ça ne me fera pas taire. Ça ne fera taire ni les femmes qui ont osé témoigner contre lui, ni les millions de femmes qui ont osé prendre la parole depuis son investiture pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec certaines choses.
Alors Fabienne, pourquoi Trump s'en prend à cette femme? Eh bien parce qu'elle fait partie de la cinquantaine d'élus démocrates qui demandent au Congrès d'ouvrir une enquête sur les éventuels cas de harcèlement ou d'agression sexuelle dont Trump aurait pu être l'auteur. Sur le tweet évoqué plus haut, la porte-parole de la Maison-Blanche a précisé qu'à ses yeux, il n'y avait rien de sexiste et que le président faisait juste allusion à la manière dont fonctionne Washington, à savoir des candidats qui cherchent des financements en tapant à peu près à toutes les portes. Chacun, évidemment, se fera son idée.
Comme vous dites, oui. Alors, retour à cette fameuse élection d'Alabama, on en a pas mal parlé sur Inter, la défaite de ce juge républicain qui s'appelle Roy Moore, ultra-conservateur, accusé lui aussi d'agression sexuelle, et la victoire surprise donc en Alabama de Doug Jones, qui est démocrate. On va revenir sur le résultat, Grégory. Ce qui nous intéresse, c'est que vous avez repéré deux moments de campagne qu'on ne peut vivre qu'aux États-Unis.
Oui, en fait, trois même, parce qu'il y a aussi l'arrivée au bureau de vote hier matin de Moore sur son cheval et avec son chapeau de cow-boy. Ça, on a un peu de mal à imaginer la même chose en France. Mais oui, deux extraits sonores vraiment frappants de cette fin de campagne. Le premier, hier après-midi, sur CNN, le journaliste Jack Tapper est en duplex avec le porte-parole de la campagne du républicain Roy Moore et le débat arrive sur l'homosexualité.
Est-ce que le juge Moore pense toujours que les comportements homosexuels doivent être punis par la loi?
Si les gens soutiennent Roy Moore en Alabama, c'est parce que son programme repose sur la Bible et ses traditions. L'homosexualité est un péché dans un sens biblique. C'est ça la position de Moore dans cet état d'Alabama.
Est-ce qu'il pense que les comportements homosexuels doivent être illégaux? Oui ou non?
Probablement, mais c'est un péché, ok?
Ok, voilà, comme dirait l'autre, allez-y. Okay.
Et puis l'autre moment que je voulais vous faire entendre, c'était avant-hier soir, lors du dernier meeting de Moore, son épouse monte sur le podium et répond aux accusations aussi d'antisémitisme qui vise son mari.
Les fake news vous diront que nous n'aimons pas les juifs. Mais je vais vous dire, et à eux aussi les journalistes que je vois là-bas, l'un de nos avocats est juif.
Oh là 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 là.
On a des amis très proches qui sont juifs, des rabbins, et ils font partie de notre communauté.
Only in America, hein, voilà. Grégory.
Exactement, je vous jure que notre avocat est juif, défense on va dire assez maladroite de l'épouse de Roy Moore, défait donc hier soir en Alabama.
Allez, juste un mot Grégory, on a vu passer il y a quelques jours cet article du New York Times assez fascinant qui nous expliquait notamment que Trump passait entre 4 et 8 heures devant la télévision. Il y a aussi des détails sur son régime alimentaire.
Oui, alors on connaissait déjà le goût du président pour les Big Mac, mais le New York Times affirme que le président Trump boit jusqu'à 12 Diet Coke par jour. Ne riez pas, c'est beaucoup quand même, 12.
Oui, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. En tout cas, ça occupe pas mal les médias américains, puisque hier, CNN a même convié son médecin sur le plateau pour lui demander si c'était bon ou non pour la santé. Alors la réponse, Fabienne, est non. Trop de caféine avec un risque de perturbation du sommeil, ce qui peut-être expliquerait les tweets matinaux de mon président.
Grégory Phillips avec nous, j'allais dire depuis la Maison-Blanche, n'exagérons rien, depuis Washington. Merci beaucoup.
France Inter. Un jour dans le monde.
Les sorties cinéma des films étrangers, c'est le mercredi avec vous, Eva Bettan. Vous avez vu un film italien qui s'appelle L'Intrusa ?
Exactement, et le réalisateur s'appelle Leonardo Di Contanza. Il sait un truc formidable parce que c'est un film de mafia, comme je vous le disais, et il n'y a pas un coup de feu.
Une petite bande-annonce peut-être pour la route.
Ah, questa sembra partire malamente.
È logico.
Noi non facciamo differenze fra di loro. Questo è un posto per i bambini, per tutti i bambini.
Eva.
Alors, il y a une quasi-unité de lieu. Tout se passe dans ce qu'on appellerait en France un centre aéré. C'est une sorte de grosse maison où viennent les enfants d'un quartier populaire. On comprend que les gens qui s'en occupent sont des sortes de des travailleurs sociaux qui sont militants, qui veulent créer une sorte d'enclave loin des difficultés environnantes, à la fois de la pauvreté et de la violence. Et ça va être comme une tragédie grecque, en quelque sorte, parce qu'il va y avoir un dilemme moral. Il y a aussi une petite maison dans cet endroit et la responsable du centre accepte d'héberger momentanément une femme qui vient avec ses deux enfants. Elle n'aura pas dit au départ qu'elle était la femme d'un mafieux, d'un criminel qui est arrêté devant leurs yeux. Et donc, nous avons un vrai dilemme moral parce que les mères des enfants qui sont là, elles vivent toute la journée avec, c'est à Naples, j'ai oublié de le dire, avec la mafia autour d'elle. Elle dit non, on ne va pas faire rentrer le mal ici. C'est une sorte d'enclave, c'est une sorte d'endroit où on est protégé de ça. Et la personne qui est responsable de ça, elle dit, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment s'arrête l'aide? Comment je fais fait pour dire non. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ce film, c'est que tout est subtil. Vous ne voyez pas de mafieux, mais vous sentez la mafia. Vous sentez dans ce que les gens racontent, vous sentez dans la peur, vous sentez que même cette enclave a peut-être été juste tolérée par eux. Quand elle marche, la responsable dans la rue, vous avez peur pour elle. Donc c'est cette présence diffuse. Et si le cinéaste la rend très bien, c'est parce que lui vit à Naples, très près d'eux.
Tous les scénaristes un peu savent que dès qu'on on raconte les mafieux et qu'on les raconte de face, quand ils deviennent les protagonistes des histoires, c'est difficile de sortir du romantisme. Voilà. C'est pour ça que j'essaie toujours de filmer pas tellement la mafia, mais de filmer les gens à côté, enfin les gens comme moi, qui vivent à côté dans un univers où la mafia elle existe. Chez nous, le mal, c'est ça, c'est la camorra ou la mafia.
Vous dites vivre à côté de la mafia.
Ouais.
Et ça, on le sent vraiment dans votre film, quoi. On a l'impression que c'est mêlé à la vie des gens, c'est vraiment ça.
Oui, mais parce que la mafia, ce n'est pas une simple affaire, comment dire, de criminels. Moi, je pense que la mafia, c'est surtout sur une manière de penser. C'est-à-dire qu'il y a une zone grise qui est très ample. C'est-à-dire des gens qui, plus ou moins, pour des raisons ou pour une autre, ils partagent soit une idéologie, soit ils peuvent être susceptibles de pouvoir entrer en contact avec la mafia.
Est-ce qu'on peut éviter d'être en contact avec la mafia ?
En contact physique, c'est un peu difficile. Parce que dans le quartier où je vis, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont des mafieux. Je sais que, par exemple, un copain, une fois, il est allé chez un mafieux pour demander s'il était d'accord, si on allait faire un centre pour des gamins, par exemple.
Il faut l'autorisation.
C'est pas une question d'autorisation, mais comme ils ont de l'influence dans le quartier, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de ça.
Voilà, c'est comme, vous savez, vous mélangez deux liquides, après vous ne pouvez pas les séparer. Et pourtant, il y a une sorte d'utopie dans ce film. Ce centre aéré est une sorte d'utopie, mais la manière dont il montre les travailleurs sociaux, il les montre aussi comme peut-être le seul espoir de rompre l'enchaînement du mal et de la violence qui entraîne la violence.
Leur travail, c'est pas simplement un accompagnement. Être à côté des gens qui sont dans le besoin. Mais c'est aussi de comment intervenir, de comment essayer d'éviter que les enfants fassent la même vie que leur père. Dans ce sens-là, je trouve que le travail de ces gens, c'est un travail politique. Politique dans le sens d'une possibilité d'intervenir dans la transformation de la société. C'est pas juste accompagner, c'est pas juste un truc de charité.
C'est de l'utopie, ça ? Où il y a une chance de sortir les enfants du mafieux, des cycles de la violence ? Il y a une possibilité d'intervention quand on a en face de soi une mafia ?
Oui, oui, absolument. Je connais beaucoup d'histoires de gens qui, grâce à des contacts qu'ils ont eus avec la société pas mafieuse, ils ont fait des autres choix dans la vie, quoi. Ça, c'est très important. Il faut leur montrer que ça existe autre chose. Parce que des gens, ils vivent dans un monde en pensant que c'est le monde et que l'extérieur sont que des ennemis.
Je dirais que c'est le revers des films de mafia que vous avez vus. C'est ce qui est dans l'ombre, c'est ce qui est à côté. Et moi, je trouve ça passionnant. Ce contre-champ est formidable.
Ça s'appelle L'Intrusa. Vous nous rappelez le nom du réalisateur ?
Oui, Leonardo Di Constanza.
Et merci beaucoup, Eva Bettan. Sylvie Kaufmann est là. L'édito du journal Le Monde, signé Sylvie Kaufmann. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Vladimir Poutine nous a encore étonné, Sylvie, cette semaine en allant rendre visite aux troupes en Syrie. Alors ça y est, il a gagné la guerre, c'est ça ?
C'est en tout cas l'impression qu'il veut donner. Mais attention à ne pas crier victoire trop tôt. Vous vous souvenez sans doute, Fabienne, de cette image de George W. Bush en combinaison de pilote sur le pont de son porte-avions le 1er mai 2003, c'est-à-dire 6 semaines après le début de l'invasion de l'Irak. Au-dessus de lui flottait une banderole triomphale « Mission accomplished », »,« Mission accomplie ». La suite, vous la connaissez. Al-Qaïda, l'État islamique, des dizaines de milliers de morts. Et 14 ans après, les troupes américaines sont toujours en Irak. Alors Vladimir Poutine, lui, a fait plus sobre, en costume sombre, lundi, sur la base aérienne russe de Khmeimim, en Syrie. Il a passé ses troupes en revue, il les a félicités d'avoir sauvé l'État syrien et il a annoncé à ses soldats qu'ils allaient bientôt rentrer chez eux, ou du moins une partie d'entre eux.
Faut-il croire Poutine quand il dit, Sylvie, que les troupes russes ont sauvé la Russie ?
Ce qui est vrai, c'est qu'elles ont sauvé le régime de Bachar al-Assad, le président syrien, qui accompagnait d'ailleurs Poutine lundi. Quand je dis accompagner, il serait plus exact de dire suivez, car la chorégraphie de l'événement était soigneusement conçu pour bien montrer qui désormais est le chef en Syrie. Dès que Bachar al-Assad collait un peu trop Poutine pendant la parade, un officier russe s'empressait de le bloquer pour mettre plus de distance entre les deux hommes. Le message était clair, sur la photo, il ne doit y en avoir qu'un
et c'est Vladimir Poutine. Cela dit, il faut quand même reconnaître que le chef du Kremlin a réussi un joli coup militaire en Syrie, car lorsqu'il a lancé l'intervention russe en septembre 2015, on ne donnait pas cher de ses chances de réussite.
Mais donc, il a raison de proclamer mission accomplie ou pas ?
En réalité, tout dépend des objectifs qu'il voulait atteindre. S'il voulait sauver Bachar, oui, mission accomplie. S'il voulait signer le grand retour de la Russie au Moyen-Orient, mission accomplie. S'il voulait écraser la rébellion démocratique au régime de Bachar, mission accomplie. Vladimir Poutine affirme aussi avoir vaincu Daesh, mais là, c'est une prétention un peu abusive, comme l'a aussitôt fait remarquer notre ministre à nous, Jean-Yves Le Drian. En revanche, s'il avait pour objectif de rétablir la paix en Syrie, alors là, ce n'est pas gagné. Le président russe a beau avoir réalisé le tour de force de pouvoir parler à peu près à tous les acteurs importants de la région, y compris l'Iran et la Turquie, il n'a pas pour autant réussi à mettre sur pied un processus de paix. Pour jeter les bases d'une transition politique en Syrie, il a besoin de l'ONU, car tout seul, il n'y arrive pas. C'est là que les Occidentaux, et en particulier les Européens, doivent poser leurs conditions. Lorsque va venir le moment de dresser la facture de la reconstruction de la Syrie, ils devront exiger que cette reconstruction se fasse en vertu d'une véritable transition politique et non pas d'un simple ravalement de façade du régime, comme le souhaite Moscou.
Sylvie Kaufmann du journal Le Monde, à très vite dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20 de France Inter continue avec dans un instant le journal de Sébastien Paour qui vient de s'installer. Et puis, vous nous écoutez peut-être dans les bouchons ou peut-être après une heure de métro ou après, allez savoir, 45 minutes de TER. On parle de mobilité ce soir, on parle de fracture, on parle de transport, on parle de TGV, on parle de TER, on parle d'avion, on parle de tout ça avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui sera avec nous. Donc, dans le téléphone sonne, le téléphone 01 45 24 7000. On se retrouve tout à l'heure.